Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse ?
Le règlement.
Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Le livre des règlements avec Sophie Mongeon, Maître Mongeon, comment ça va?
Ouais, ça va super bien, et vous?
Ça va bien aussi, un sujet qui brûle l'actualité. Oh. C'est revenu à quelques reprises à l'émission depuis quelques mois. Et là, il y a le reportage de J.E. à TVA, dont on a fait entendre un extrait plutôt à l'émission aujourd'hui, qui nous parle de l'exemple notamment d'un jeune là, qui a été empêché de jouer parce qu'il était pas assez bon au dire des parents. On est quand même dans un calibre récréatif.
Bantam B.
Le Bantam B, il n'y a pas plus bas là, dans la région de la Montérégie pour jouer. Si on a cet âge-là, Bantam, c'est quoi? C'est 13-14 ans. Quand on a 13-14 ans et qu'on veut jouer au hockey, ben c'est du Bantam. Puis après ça, ben, tu as plusieurs niveaux.
La participation. Là.
La participation. Tu vas là pour t'amuser, avoir une expérience de hockey. Or, les parents veulent gagner et ça ne passe pas.
Ben, vous savez, moi, j'ai de l'expérience au hockey parce que le père de mes enfants a été entraîneur de nombreuses années. Puis là, actuellement, il est coordonnateur midget. Alors, j'ai vu en premier plan tous les appels téléphoniques qu'il peut recevoir le soir de parents qui, effectivement, même là, si on est dans le B ou dans le A ou dans le 2B, 2A, tous les questionnements, puis comment ça se fait que mon fils a été coupé. Fait que, tu sais, on est facile des fois à lancer là, la pierre aux entraîneurs ou aux gens qui font du bénévolat, mais c'est pas un emploi facile de gérer tout ça. C'est une grosse garderie, là.
Et quand on est avocat, exemple, et qu'on regarde toujours ça de la part... quels sont les droits de la personne qui est intimée dans l'affaire, qui m'appelle, qui demande à recevoir justice? Parce que d'un côté, t'as la mère de ce jeune-là qui vit une injustice. Vraiment, ce jeune-là peut jouer. Il est inscrit, peut jouer. De l'autre côté, t'as des parents qui, eux, payent pour que leur enfant joue une belle expérience. Et trouvent que leur expérience est diminuée par le fait qu'on permette à un autre joueur qui est pas de calibre selon eux de jouer. Donc, chacun de ces camps pense avoir raison et cherche justice. Mais les deux points de vue ne peuvent pas être mis ensemble. Là. Il peut pas avoir tout le monde de content, là.
Non. Est-ce qu'il y a vraiment de la jurisprudence qui tranche tout ça? Pas vraiment. Parce que vous savez, dans le sport amateur ou au niveau mineur, quand les parents se plaignent, malheureusement, ça fait pas l'effet escompté. Puis souvent, le jeune va être ostracisé. Puis au contraire, là, ça va être pire qu'est-ce qu'il y en est. Heureusement, les gens vont s'exprimer de plus en plus. Donc, justement, pourquoi qu'il y a eu le reportage de J.E.? Est-ce qu'il y a des poursuites légales possibles? Tu sais, je vous ai soumis des jurisprudences oui. là, à cet effet-là. Puis comme vous avez pu voir, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu gain de cause dans les parents.
Ben, il y a notamment le cas de l'association de hockey mineur de l'Est, les Prédateurs de Montréal, Midget 3A, la Ligue de développement du Midget 3A du Québec et la Fédération québécoise de hockey sur glace qui sont les demandeurs dans l'affaire de Alexandre Di Rocco qui prétendait avoir été coupé injustement.
Donc, effectivement, là, le jeune, il poursuivait l'Association de hockey mineur Les Étoiles de l'Est, les Prédateurs, la Ligue de développement de hockey Midget 3 et Hockey Québec. Il y avait deux volets à ce dossier-là. Il y avait la question à savoir si les associations avaient fait des erreurs comme telles et le jugement est arrivé à la conclusion que non, l'association ne devait pas être tenue responsable. Mais dans ce dossier-là, ce qui est arrivé, c'est que le jeune avait eu quand même un contrat avec les Prédateurs, qui est une équipe de 3A, comme quoi que oui, il était pour être retenu comme un des gardiens. Et en cours de route, il n'a pas été retenu. Fait que c'est pas sur la mauvaise foi que le jeune a gagné, c'est plutôt sur l'obligation contractuelle. Donc, la mauvaise foi n'a pas été impliquée du tout et on a dit plutôt qu'il y avait un contrat qui n'avait pas été respecté et ça fait en sorte que le jeune a subi un préjudice. Mais il poursuivait pour 20 000.
C'est
ça. Il a eu 7 500 $ là.
Mais là, on parle quand même de l'élite. Quand on parle d'un midget 3A, il n'y a pas de plus haut niveau et on s'entend que là, il y a des contrats, on le dit, on est loin du hockey récréatif. Alors, il y a vraiment deux mondes là-dedans. Là, il y a un contrat, il peut se faire justice. En même temps, il faut qu'il s'attende à ce que ça peut arriver que si les performances sont pas là, ben il va se faire couper. Parce que là, on n'est plus dans on joue pour donner la chance à tout le monde. Là. On est dans on joue puis on garde les meilleurs pour gagner.
Parce que c'est bien beau, il y a eu 7500 $ là, mais ça ne le remet pas sur le club, ça, là.
Ben donc, effectivement, là, ça a mis fin à sa carrière comme tel. Ben, il n'a jamais réussi à se replacer ailleurs.
Au lieu de peut-être se retrousser les manches, c'est comme un jeune devrait faire, puis dire, regarde, c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, l'année prochaine, je vais aller jouer Midget 2A, puis l'année prochaine, ben, je vais être mieux, je vais faire le club, puis ça va être correct.
Parfait.
C'est peut-être ça, là, le bon chemin à prendre, là, tu sais, tandis que là, on, sais, on, je veux pas dire qu'il prend le chemin facile, mais il se fait pas aimer de personne. Puis ça, ça reste avec lui, le petit gars, là. Ben, par la suite, là.
Oui, c'est ça, lui, dans le fond, dans ce dossier-là, il s'est retrouvé à jouer dans une ligue de garage. Puis
ben,
il
c'est
même,
ça.
Est allé aux États-Unis. Fait que finalement, je pense qu'aujourd'hui, on, malheureusement, on le connaît pas. Il a pas dû percer dans le monde du hockey, là.
Non. Comme plusieurs, de toute façon, là. C'est tellement difficile. Mais il y a des parents qui, dès le jeune âge de leur enfant, les voient gros, les voient faire la Ligue nationale. Et donc, vont vouloir empiéter sur les responsabilités du coach, de qui joue, à quelle position, le temps de glace.
Mais ce que je constate là, dans la pratique là, aujourd'hui, dans le quotidien, dans la vraie vie, là, un, les gens qui se retrouvent à être entraîneurs dans les ligues mineures, c'est des bénévoles. Fait que, tu sais, au départ, ils font ça de bon cœur, puis souvent, c'est un parent d'un jeune.
Oui, oui.
OK? Donc, lui, il fait ça avec le gros bon sens, puis effectivement, là, il subit la pression de tous les parents qui, eux, veulent absolument gagner, puis qui voient ça comme ça, leurs enfants vont faire la Ligue nationale. Fait que là, ça devient difficile pour les entraîneurs de gérer ça. Puis là, comme parent, tu sens qu'il y a une injustice. Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est comme dans le milieu du travail, hein? Quand tu critiques tes supérieurs parce que tu veux revendiquer un droit, même si tu as raison sur le fond, souvent, en bout de ligne, que tu vas te faire un... peinturé dans un coin. Fait que là, c'est que ça devient une espèce de servicieux où il y a une espèce de loi d'omerta qui s'installe. Donc, tu veux pas trop parler parce que là, ton fils a des problèmes, mais là, il subit l'injustice. Puis là, la pression, mais là, c'est de l'intimidation là, qui s'installe. Là.
Quand on présente à Hockey Québec la semaine passée le nouveau guide, dans ce guide-là, bien, il y a plusieurs dispositions. S'il y a des parents, ça fait pas l'affaire, des parents qui sont injurieux, qui dépassent les bornes, ça commence souvent dans les catégories, peu importe l'offense, là, par de la médiation qui est faite par les associations de hockey locales. Tu sais, quand on parle de médiation, on commence à tomber dans des termes juridiques, dans des termes légaux, mais ce cadre-là est un peu flou quand on pense aux associations qui sont elles aussi remplies de parents, souvent de parents de joueurs, des gens qui sont impliqués au sein de leur association. On n'a pas force de loi quand on fait une médiation dans un conflit, exemple, qu'il pourrait y avoir dans Hockey Richelieu, là.
Non, c'est purement volontaire. L'objectif, c'est d'essayer de calmer les feux sans plus. Mais tu sais, j'ai le goût de vous dire, quoi d'autre qu'ils peuvent faire?
Ben, l'option après la médiation, si ça fonctionne pas, c'est l'expulsion des fédérations et là, le jeune paye. Mm-hmm. Son parent a dépassé les bornes, mais c'est le jeune qui ne peut plus jouer dans l'association de hockey.
Mais j'ai vu des parents qui ont été expulsés, qui n'ont plus le droit de rentrer du tout là, à l'aréna. Là.
Mais comment on fait pour appliquer ça? Le parent
c'est
peut
si
pas
lui,
rentrer.
Il décide. Là, ouais, c'est ça, il n'y a pas de c'est police ça. Qui attend. Puis regarde, c'est
à
pas
moins qu'on
nom.
En mette, à moins qu'on appelle la police.
On met-tu des posters sur les murs, lui, il n'a pas le droit de rentrer ici.
Non, c'est
là.
Ça, c'est difficile.
Mais je pense que, Sophie, je pense que la responsabilité aussi, ça revient aux autres parents. Tu sais, moi, j'étais parent d'enfants, de gars qui ont joué au hockey. Là. Si toi, LP, là, t'es dans mon club, puis tu te comportes comme un imbécile dans les estrades, puis tu crapes à tout le monde, puis tu dis des choses, ah, il n'est pas bon, lui. À un moment donné, je vais te dire, hey, ferme ta gueule, là, puis prends ton trou. Là. Je pense que les parents. Ils ont une grosse, grosse, grosse... Les autres parents ont une grosse, grosse responsabilité là aussi là-dedans. Là.
Ben oui, mais effectivement, si quelqu'un est... Vous avez raison, là, vraiment. Là. Mais moi, j'ai déjà vu un parent qui a été expulsé, puis quand il essayait de se présenter, ben la police a été appelée. Là. Okay. J'ai vu des batailles dans le corridor. Justement, comme je vous disais, le père de mon fils, il y a eu une bataille entre deux personnes dans le corridor. Fait que c'est les enfants qui payent pour ça. Là.
Si on ne fait rien... L'enfant qui vit de l'intimidation de la part des parents dans les estrades, après ça, peut vivre des conséquences de ça. Et en tant qu'adulte, même avant, les parents peuvent décider de revenir contre l'association qui a rien fait. Là parce qu'il y a une notion de responsabilité là-dedans. Et il peut y avoir des recours légaux pour les parents.
Mais tous les recours légaux que j'ai vérifiés, en bout de ligne, les associations, dans la mesure où ils ont fait un devoir d'information, de rencontre, ouais. Qui ont convoqué les personnes, puis qui ont tenté d'arriver à un règlement à l'amiable, ont toujours été tenus non responsables. J'ai retrouvé une décision là, qui date, je pense, de 2007. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Récemment, j'en ai pas vu du tout.
Okay.
Où c'était c'était un jeune fils. Son père était entraîneur et les parents avaient fait une pétition contre l'entraîneur et contre le fils. L'organisation les avait... Oui, c'est ça, des pétitions et tout. Ils les avaient convoqués pour une rencontre, mais ni l'entraîneur ni le fils sont allés. Puis en bout de ligne, le club n'a pas été retenu responsable parce que dans la mesure où eux, ils ont fait un souci de transparence puis essayé de faire des rencontres, donc il n'y a pas eu de dommages qui ont été portés contre eux. Là. Le seul dommage que j'ai trouvé, c'est par analogie, là, un club de soccer en 2009 où il y avait une jeune fille qui avait été benchée dans un match. Puis finalement, l'organisation n'avait pas fait les démarches appropriées, l'avait tout simplement ostracisée, remboursé la fille et tout. Puis c'est une bonne fille, ouais. Puis elle avait rien à se reprocher. Puis en bout de ligne, elle avait eu un dommage d'intérêt de 500 $ et un autre dommage de 750 là. Fait que, en même temps, c'est beaucoup de travail pour très peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe, le reportage de JE et la sensibilisation, puis vous savez, dans le cadre du travail maintenant, on est obligé depuis le 1er janvier 2019, les employeurs à mettre en place des règles pour l'harcèlement. Donc, on voit qu'il y a un changement de philosophie qui s'installe. Là. Donc, ah. Ça devrait être la même chose aussi au niveau du sport amateur.
On a parlé du dossier récemment là, des nombreuses agressions sexuelles dans le monde du sport parce qu'il y a pire, il y a plus que les mots. Il y a des gestes exact, de nature sexuelle qui ont eu lieu. Il y a notamment Bertrand Charest présentement qui est derrière les barreaux, reconnu coupable de 37 chefs d'accusation pour des crimes sexuels. À tout le monde en parle, l'ex-skieuse Geneviève Simard a livré un témoignage poignant. Maintenant, il y a Bertrand Charest qui est responsable et qui paye, mais est-ce qu'il y a d'autres responsables? C'est ce qu'on cherche. Parce qu'il y avait des employeurs qui l'ont gardé en poste, M. Charest, pendant toutes ces années.
Ils ont sûrement fermé les yeux, là.
Oui. Peut-être, oui.
Dans le cadre du travail, s'il y a de l'harcèlement, la personne qui va être poursuivie, c'est pas nécessairement l'harceleur, mais c'est l'employeur. Parce que lui, il y a une obligation factuelle et légale de protéger les travailleurs contre l'harcèlement d'un autre.
Alors, donc, on se pose la question, quelle est l'imputabilité de Canada Alpin dans le dossier de Bertrand Charest?
Moi, je pense que si Canada Alpin, on est capable de faire la preuve qu'il était au courant, puis qu'il a rien fait, puis qu'il y a eu... On l'a essayé de lui dire, de leur dire à quelques reprises, puis on fait la sourde oreille. Ils vont être tenus responsables. Ce que je pense, ben actuellement, chacune des victimes poursuivent 300 000 $ en dommages compensatoires pour les préjudices moraux et matériels et 150 en dommages punitifs à Canada Alpin. Moi, je pense que cette décision-là et cette poursuite-là pourrait vraiment changer la donne maintenant dans le sport et rendre les associations imputables.
Ça peut prendre du temps. On va avoir l'occasion de s'en reparler. On va voir ce qui va sortir. Mais moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des... Surtout si on démontre qu'ils sont au courant. Il n'y a pas juste Charest qui devrait être condamné. Il y en a d'autres également. Mm-hmm. Autant à payer. Puis on verra si ça va plus loin. On se souvient du scandale à Penn State aux États-Unis dans le football
Paterno
et, Joe Paterno et
ses associés. Là. Ouais.
Oui, on avait fermé les yeux là, sur les agissements d'un coach là, de nature sexuelle. Quand on ferme les yeux, on est aussi coupable. C'est malheureux, mais c'est ça.
Il y a une obligation de protection, comme les étudiants qui ont été abusés par les prêtres à l'époque.
Tout à fait. Maître Sophie Mongeon, toujours intéressant. Merci beaucoup.
Merci, bonne semaine.
Bonne semaine.